Aujourd'hui, nous sommes tous des Américains. Le président Obama a gagné le prix Nobel de la paix et j'aimerais, en tant qu'Américaine expatriée à Lyon, exprimer mes profonds sentiments en rapport avec cette remise de prix si méritée. Pour partager ma pensée, je vais me servir des mots de M. Paul Craig Roberts, qui exprime parfaitement mon émotion dans un article qu'il a publié sur le site web Information Clearinghouse le vendredi dernier. Excusez-moi pour mes lacunes dans l'art de la traduction. Il écrit « Le comité du prix Nobel a remis le prix Nobel de la paix 2009 au président Obama, la personne qui a démarré une nouvelle guerre au Pakistan, qui a amplifié la guerre en Afghanistan et qui continue à menacer l'Iran d'une attaque imminente. Obama a créé un nouveau climat dans la politique internationale », déclare le comité dégoulinant d'emphase. Il faudrait expliquer cela aux 2 millions de Pakistanais déplacés ou tués pendant les quelques mois de présidence de M. Obama. Faudrait faire comprendre ce nouveau climat aux Afghans qui voient le taux de mortalité de la population civile augmenter de jour en jour, tandis que la guerre dite de nécessité de M. Obama se prolonge indéfiniment. La politique Bush n'a point changé, l'Irak est toujours occupé, Guantanamo, prison de la torture, continue à fonctionner. La liberté des citoyens continue à être bafouée et violée au nom d'une guerre nébuleuse contre le terrorisme. Fin de citation. L'illustre marchand de guerre Henry Kissinger, qui, comme tout le monde le sait, est responsable d'un nombre incalculable de morts en Amérique latine, ainsi qu'au Vietnam et au Cambodge, a aussi reçu ce prix Nobel de la paix. En fait, l'initiateur du prix lui-même, Alfred Nobel, fabricant de dynamite, de gélinite et d'autres armes de guerre, était aussi un marchand de guerre. Par conséquent, le marchand de guerre Obama est sans doute le candidat le plus méritant de ce prix dit de la paix. Puisqu'aujourd'hui, comme l'avait prédit l'écrivain George Orwell, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, le mensonge, c'est la vérité. Oui, aujourd'hui, nous sommes tous des Américains. Merci.
Salut Daniel, salut à tous. Mon message étant très politiquement incorrect, j'hésitais à vous le transmettre, mais comme on ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur cette antenne, je rebondis sur le témoignage d'une auditrice d'hier, qui, ayant déménagé 30 fois en 30 ans, nous a scéné une petite leçon de morale sur la vertu du travail et blablabla. Pour avoir moi-même vécu à l'étranger, mais en libéral, donc sans aucune assistance, je connais très bien cette problématique. Et quelqu'un qui déménage 30 fois en 30 ans a toutes les chances d'être soit dans l'armée, soit de bénéficier du statut d'expatrié. Et pour les avoir fréquentés de très près, les conditions de vie des expatriés n'ont vraiment rien de comparable, je peux vous l'assurer, avec l'angoisse des salariés au travail 365 jours par an, même avec 50 degrés en plein désert. Cela dit, moi, je trouve que tout ce qui arrive à France Télécom et ailleurs, c'est bien fait pour eux. Aïe, 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 le tollé. Mais enfin, qui a voté pour la talonnette? Qui n'a jamais demandé, par exemple, à l'émission de Jean-Marc Sylvestre de France Inter pour ses propos parfaitement imbéciles sur la privatisation de France Télécom et avec quelle résonance ils prennent aujourd'hui? Qui continue de suivre benoîtement les directives des syndicats totalement obsolètes et les passés quand ils ne sont pas corrompus eux-mêmes? Qui ne s'est pas toujours décidé à la grève générale illimitée? Pourquoi les salariés de France Télécom ne font pas grève illimitée pour obtenir la démission de Lombard? Qui, après le tout récent désastre financier, qui ne devrait pas être le dernier, a réclamé avec force la nationalisation des banques? Pourquoi les salariés bancaires ne font-ils pas grève pour réclamer cette nationalisation? Je continue, pas le temps. Mais je vous le demande. Alors, puisque les élections régionales arrivent, eh bien, commençons par virer la talonnette et ses groupies. Et puis passons à autre chose. Elle sera forcément plus belle, la vie. C'était Michel, à Lyon.
Ouais, c'est Yves de Nancy. Bah, écoute, Daniel, en voiture, je t'écoute là. Enfin, surtout tes messages. Alors, la pauvre dame là, qui travaille dans une entreprise américaine qui, pour pas la nommer, ça doit être UPS. La pauvre, alors elle doit répondre au téléphone pour le SAV et puis pour les débordements du centre d'appel marocain. Bah ouais, putain, c'est vraiment terrible ce qui arrive aux gens, c'est incroyable quoi. Hein. Puis bientôt elle va traiter des litiges. Ah, bah oui, il faut être polyvalent. Bah oui, il faut être polyvalent, ouais. Putain, c'est quand même grave d'entendre ça, quoi. C'est-à-dire le jour où on demandera aux gens de faire un seul métier qui s'y cantonne et qui font toujours la même chose pendant 30 ans, on va se plaindre parce que ils font toujours la même chose et qu'ils s'emmerdent. Putain, il y a quand même des gens qui ont la chance de faire des choses différentes et en plus qui participent à sauver leurs emplois. Parce que si madame, elle veut pas être polyvalente, bah eux, les Marocains, ils le seront. En plus, au téléphone derrière un bureau, ça va. C'est pas trop dur. En tout cas, bravo à la mamie de 70 ans juste avant. Hein. Allez, salut, bonne route.
Rescapée d'une guerre dont je ne connaissais pas le nom, la maltraitance programmée, ni ses armes, stressée, isolée, individualisée, déstabilisée, culpabilisée, désolidarisée, faire peur, faire bouger, mépriser, humilier, nier, annuler. Je vous ai relaté hier le comportement indigne d'un médecin expert de France Télécom qui, en bon petit soldat, avait exécuté la règle numéro 1 à France Télécom. Un bon employé est un employé qui part. En me faisant chasser de son cabinet manu militari, car j'étais, disait-elle à la police et aux pompiers, dangereuse. Je voulais vous dire aujourd'hui ce que j'ai compris avec le recul. Merci de votre écoute. Tous les moyens, absolument tous, sont et seront utilisés pour expulser les indésirables. Chacun de nous peut être un indésirable. On nous le fait sentir constamment. On fragilise qui peut l'être et on élague. Le cynisme du système et des personnes qui s'en font les rouages, par complaisance ou par peur, est infini, insondable, à mon avis, inébranlable. Ce n'est pas l'actualité dramatique qui va changer quoi que ce soit la règle du jeu. Personne chez nos décideurs et nos dirigeants politiques, personne n'est ému par les suicides. Juste un peu embarrassé néanmoins, parce que les médias portent un éclairage fort sur la boîte et que les règles du jeu risquent d'apparaître au grand jour, et même peut-être que, parmi le petit personnel qui s'investit tant dans son travail qu'il en oublie sa vie, certains, de plus en plus nombreux, ne seront plus dupes. Notre arme à nous, c'est de comprendre comment fonctionne la machine à broyer. Soyez dangereux, chers collègues. Soyez dangereux pour le système. Dangereux de toute votre lucide humanité. Les prises de conscience sont salvatrices, mais paradoxalement douloureuses. Tout un système de valeurs auquel on croyait et auquel il va falloir renoncer. Mais renoncer, c'est pas un échec. Et abandonner des illusions, c'est pas être abandonné soi-même. Quand on comprend ensemble, qu'on échange entre nous et qu'on vit les choses solidairement. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil, nous dit René Char. Merci à la base qui suit de nous avoir apporté de la lumière pour nous en approcher. Bon courage à tous.
Amis de Lille, bonjour. Donc ce soir, réunion des amis de la base qui suit au repère Café L'Imaginaire dans le Vieux Lille. Comme tous les deuxièmes lundis du mois, donc à partir de 20h, à l'Imaginaire dans le Vieux-Lille. Voilà, venez nombreux, au revoir.
Bonsoir, je suis Yvette de Toulouse. Je n'ai pas d'ordinateur, mais ma petite fille aînée m'a lu tous vos messages sur Internet et j'ai été bouleversée. Je vous affirme que je ne me voyais pas comme vous me voyez tous. Et je vous embrasse de tout mon cœur.
Vous l'avez reconnu, c'est Yvette. Yvette qu'on a retrouvée il y a quelques jours grâce à une rediffusion d'une émission ancienne de La Basse J'y suis. Yvette, cette dame qui a perdu la vue et qui élevait son petit-fils de 4 ans. C'est un reportage de 91 ou 92. Et puis le hasard, la chance a voulu que, eh bien, Yvette s'écoute 18 ans après et qu'elle se manifeste. On a diffusé son message. Elle a 91 ans aujourd'hui. Elle a rencontré l'amour et l'amour dans tous les sens du terme à 91 ans. Et oui, ça marche toujours. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et bonheur aussi de l'entendre à nouveau. Merci aussi pour tous ces reportages suite aux 3 émissions sur France Télécom et sur les conditions de travail à France Télécom, et vous l'entendez bien sûr dans d'autres entreprises en France. Aujourd'hui, ben on continue puisque c'est les 20 ans de La Basse J'y suis, 1989-2009, 20 ans, et ce n'est qu'un début. On va revenir en arrière en 1991. En 1991, nous étions à Bangkok, en Thaïlande. Vous allez voir que le sujet d'aujourd'hui n'est pas sans rapport avec ce dont vous avez parlé tout au cours de ce week-end dernier qui a chauffé dans les chaumières et entre les poires et les fromages. Cette émission s'appelle « La petite pute de Bangkok ». La petite pute de Bangkok. Ce qui fait que sur notre site labas.org et partout, c'est la mention la plus visitée. C'est l'émission la plus visitée depuis des années à cause du titre. À cause du titre. Voilà. Et évidemment, ceux qui ouvrent cette page, ben, ils écoutent, je ne sais pas s'ils écoutent bien longtemps, mais en tous les cas, écoutent ce que vous allez écouter aujourd'hui. C'était donc il y a 18 ans. On va retrouver cette jeune fille qui s'appelait Thiboa. Là, pour le coup, je doute qu'elle nous écoute. Mais qui sait ? Qui sait, après tout ? Peut-être que quelqu'un la connaît et qu'on pourra savoir de cette façon ce qu'elle est devenue. Quant à la Thaïlande, en général, eh ben, vous allez l'entendre, vous allez le voir. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Quant à la prostitution, les chiffres sont toujours approximatifs. À l'époque, on disait qu'il y avait 2 millions de sex workers, de travailleurs du sexe en Thaïlande. Les chiffres qui circulent actuellement donnent 2 millions à 2 millions 5 de sex workers, dont 800 000 enfants. Ce chiffre nous semblait aberrant à l'époque. Il est toujours, il circule toujours, même s'il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. C'est évidemment énorme. Donc, retour aujourd'hui à Bangkok, retour avec Thiboa. Et puis autre chose, je crois qu'il est nécessaire, par les temps qui courent, de vous mettre en garde contre un ouvrage qui est en vente depuis quelques jours dans n'importe quelle librairie et donc à la portée de n'importe qui, des personnes sensibles comme de nos enfants. Il s'agit d'un livre où l'obscénité la plus graveleuse le dispute au sacrilège le plus abject, tant envers la religion qu'envers la France. Un ouvrage où s'étale l'apologie de l'alcoolisme, du jazz, des chats et des filles de mauvaise vie. Inutile de s'étendre sur ces figures féminines aux formes outrageusement rebondies, parfois seulement vêtues de bas noirs et de hauts talons, et qui s'adonnent complaisamment à toutes les turpitudes dans toutes les postures imaginables, comme par exemple celle de la page 154 en bas à droite, qui est à quatre pattes. Bon. Un livre contraire à notre déontologie, un livre à déconseiller et dont il est préférable donc de ne pas parler, d'autant qu'il est préfacé par Guy Bedos, un abuseur public à la réputation aussi trouble et nauséabonde que celui auquel ce livre de 190 pages est consacré. Je veux parler d'un certain Ciné, vieillard libidineux de 80 ans passés, qui se serait effacé dans l'anonymat si son antisémitisme exacerbé n'avait été courageusement dénoncé, sauf que cette accusation n'a pas été reconnue par une justice française au service des intérêts islamistes. Non seulement Ciné a été relaxé, mais il dirige un hebdomadaire qui chaque semaine est acheté et lu par des dizaines de milliers d'antisémites, d'obsédés sexuels, de mécréants, d'alcooliques, de chats, d'amateurs de jazz et de femmes aux formes rebondies, seulement vêtues de bas noirs et de talons aiguilles qui est dans des positions comme par exemple à la page 73. Voilà pourquoi, sur France Inter, nous ne parlons pas et nous ne parlerons pas de ce livre, Ciné, 60 ans de dessin, préface de Guy Bedos aux éditions Webek. Voilà, à part ça, donc, voyage, retour en Thaïlande. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à Daniel Mermet, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, bonjour à tous les auditeurs et bravo pour cette émission. Je ne vous parlerai pas des suicides à France Télécom ni de la violence au travail. Ce n'est pas que je juge les sujets inintéressants, j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la série d'émissions Orange Stressé, notamment aujourd'hui avec l'intervention de Gilda Relou. Mais je ne vous parlerai pas des suicides car j'ai plutôt envie de vous parler d'une info entendue aujourd'hui, vendredi 9 octobre, sur France Inter. Une info qui m'a fait plaisir, une fois n'est pas coutume. Daniel Vaillant, maire socialiste du 18e arrondissement de Paris, ancien ministre de l'Intérieur, a déclaré être favorable à une légalisation contrôlée du cannabis. Il part du constat que l'interdiction ne règle pas le problème et qu'au contraire on assiste à une aggravation des trafics et de la criminalité. Et il propose tout simplement de tenter le pari de la réglementation. Il a déclaré aujourd'hui aux Parisiens « Ne faudrait-il pas prendre le pari de légaliser la consommation personnelle de cannabis à travers un contrôle de la production et de l'importation, comme c'est le cas avec l'alcool ?» Et il développe « On peut imaginer un contrôle des approvisionnements extérieurs et une production en France. Tout se ferait dans la transparence, dans la règle, comme pour le tabac et l'alcool. Pas de produits frelatés, pas d'économie souterraine et une vente à des endroits précis et contrôlée, interdite aux mineurs de moins de 16 ans. » Alors évidemment, l'UMP s'est dit scandalisé par de tels propos jugés inacceptables. Ça ne nous étonne guère. Mais moi, au contraire, sur cette question de la dépénalisation ou de la légalisation contrôlée du cannabis, j'ai envie de dire bravo à Daniel Vaillant. Continuez.
Voilà, j'appelle parce que je suis très émue et terrassée par les témoignages que j'ai entendus sur France Télécom. Mais surtout par l'analogie que l'on peut faire avec ce qui se passe dans la fonction publique hospitalière. Je travaille depuis 15 ans à l'hôpital. Mon service fait l'objet depuis 3 ans d'une restructuration que nous n'avons même pas le droit de nommer comme cela. Il faut dire en fait redimensionnement d'équipe. C'est une belle poésie pour parler de la casse du personnel. Le but du jeu, c'est de nous briser pour que l'on parte de nous-mêmes. Un exemple, lors d'une réunion, le cadre trace un trait sur le paperboard avec en haut à droite écrit « ceux qui restent » et en haut à gauche écrit « ceux qui partent ». Je ne peux pas tout raconter parce que ce serait trop long. Sans parler de l'immobilisme total du médecin du travail qui, dans son bureau, me recommande de ne pas pleurer parce qu'elle aussi a ses problèmes. À 46 ans, je n'ai trouvé qu'une solution pour sauver ma vie, reprendre le chemin de l'école. Pour l'instant, je revis. Mais je sais que tôt ou tard, il faudra y retourner. Je suis solidaire de toutes les personnes qui souffrent en situation de travail. Je sais combien il est compliqué d'expliquer aux autres, à nos proches, ce que nous subissons. Merci Daniel pour tes émissions qui libèrent la parole et qui ouvrent les cœurs. C'est Christine à La Bouexière à côté de Rennes.
Salut à toutes les filles de là-bas si j'y suis. Je suis Yvan Yonnet de Sud Énergie à Caen et donc c'était juste pour vous informer que ce matin à EDF Caen commence le premier conseil de discipline. Il y en aura 13 dans la série, il y en aura 240 au niveau national à EDF suite au mouvement d'avril-mai. Nos directions sont revanchardes à ce niveau-là et pour l'instant on a déjà 4 demandes de licenciement au niveau national qui sont défendues. Voilà, on va essayer de se battre là-dessus, quoi. Malheureusement, on a bien peur que ce qui se passe à France Télécom se produise également à EDF dans les années à venir, puisque aujourd'hui, les agents qui relèvent la tête, eh ben, on va simplement les sortir de l'entreprise. Comme ça, il y aura beaucoup moins de lutte derrière, quoi. C'est la décision de ce nouveau gouvernement. Je pense pas que ce soit Broglio, le copain Sarko qui change les choses là-dessus. On sait très bien, on connaît ces gens-là, on sait d'où ils viennent, on sait où ils vont nous emmener. Maintenant, la lutte va continuer, on va remettre ça, et puis... on vous tiendra au courant, on vous fera parvenir les affiches rouges qu'on a sorties sur Caen. A plus, salut.
Nantes et alentours. Le Repère de Nantes fait sa chronique radio sur les ondes de Jet FM. Suivez-nous dans une journée avec Bernard le colporteur, l'éducation populaire de Franck Lepage et autres mises en bouche décalées. C'est mardi 13 octobre vers 12h15, émission du midi, Jet FM 91.2. Rediffusion dans le 7-9 de mercredi 14 et vendredi 16. Podcast sur notre site Repère, www.repère-nantes.info. Merci, au revoir. ปากพี่ตะกนกูถึงยอดชูเพื่อนร่วมตายไม่รู้ว่าเจ้าจมหาย
Flight number 2 arriving from New York
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé la première fois que tu as fait la prostitution
ไม่ใช่ค่ะที่พาไปเนี่ยเขาเอาไปขายเฉยพอขายให้เขาต่อแล้วเขาก็จะกลับค่ะ
Eh bien, c'est la personne qui garde la maison, enfin le bordel. S'il ne le fait pas, il se bat. Il a battu.
L'homme qui gardait le bordel, il t'a dit, si tu ne le fais pas, je te bats. Oui. Et qu'est-ce que tu as dit?
Là, Donc elle a peur. Elle a peur, donc elle a fait.
Elle l'a fait.
Et
l'ont battu plusieurs fois, à chaque fois quand elle n'a pas voulu. Parfois, c'est vrai, elle n'a pas tellement envie, avec des clients qui arrivent, qui sont laides, qui ils veulent ceci, cela, donc elle ne peut pas offrir, et puis elle n'a pas envie, ou elle a... Donc, elle refuse de le faire. Et une fois qu'elle refuse, donc le client descend pour parler le garde. Et c'est le garde qui vient la battre.
Elle s'appelle Thieboa. Elle n'a pas encore 16 ans. Et déjà pendant 5 années de sa vie, elle a été prostituée. De 11 à 15 ans. 5 ans. Elle va nous raconter son histoire. En Thaï, on les appelle « Pushaokakin ». Ça veut dire « ceux qui cherchent à manger ».
Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!
Tom, Tom, where you go last night?
I left my kite and back at home.
Nong nang, kong tham hai Tom lum long.
On a été accueillis avec des fleurs, hein, des monceaux de... Oh, le mot m'échappe.
Des orchidées,
oui. Et puis alors, on a toujours un pot d'accueil.
Ah, vous faites le salut, là, vous avez pigé le salut.
Oui, bien sûr.
Oui, ça fait partie du décor. Alors. On ne se pose pas de questions. Ils misent aussi sur leur pagode. Mais pour moi, il y a trop de Bouddhas. Hein. On a Jésus-Christ, nous, mais on le voit moins que leur Bouddha. Hein. Il y en a partout, partout, partout. Vous avez vu les Bouddhas? Les gens viennent avec des petits carrés d'or. 14 carats et qui colle ça sur leur Bouddha, c'est frappant. Je pense qu'il ferait mieux de faire l'aumône plutôt que de couvrir leur Bouddha d'or. Hein.
Il y a beaucoup de misère. Hein. Bon, bien sûr, les enfants, comme elle dit ma femme, ils sont bien nourris. Mais avec un bol de riz, ils se nourrissent. Hein. Et le riz les gonfle. Hein.
Thaïlande, paradis des touristes. Pour commencer, voilà une histoire de touriste. L'histoire vraie du touriste, du salmôme et des oiseaux. C'est un matin calme sur le fleuve Chao Phraya, sur les Klongs, sur les canaux de Bangkok le long des maisons en bois de teck au bord de l'eau. Naguère, c'était la Venise de l'Orient. Aujourd'hui, le fleuve est une poubelle, le jus jaune d'un furoncle où flottent les chiens morts et les capotes, parmi les nénuphars malades, où une vieille dame avec un verre à dents se lave les dents. Mais c'est tout de même le matin. Les junkies sont encore gris, les bonzes sont déjà safrans, et ils vont par les rues sous le ciel perle au-dessus des pagodes, les confiseries de Bouddha. Au coin des toitures vernissées, il y a un petit vent qui fait teinter les clochettes d'or, qui chasse les mauvais esprits. Une brise entre les banyans qui fait semblant d'avoir balayé la pollution des menthes. Le chauffeur de taxi a accroché un collier de jasmin frais à son rétroviseur. Et c'est l'instant propice aux voyageurs pour libérer un oiseau. C'est une tradition ici, un geste bouddhiste, un geste sacré. Dans le jardin du temple, sous un frangipanier, on vous invite en souriant. Vous ouvrez la petite cage de bambou, le petit oiseau va sortir, et sur la photo, vous serez tout frais, tout vrai, et... Voilà le locataire perpétuel du ciel qui retrouve sa liberté. Mais non, tout est faux, c'est truqué. L'oiseau est drogué, oui, drogué, piégé. Il n'ira pas plus loin que le sommet de la pagode, où sa drogue l'attend. Là-haut, un enfant, un salmôme, un autre piaf des rues de Bangkok, chope l'oiseau et le remet dans la cage. Il y a 50 000 enfants à l'abandon dans les rues de Bangkok. Tout à l'heure, un autre touriste, un autre voyageur, se fera gruger, piéger l'oiseau drogué, piéger le touriste floué. Bangkok est un paradis perverti. Alors bien sûr, Brigitte Bardot défendra l'oiseau. Que choisir ? Défendra le touriste et le sale môme là-dedans. Une bonne âme, sans doute, lui fera la morale. Mais ça, le môme s'en fout éperdument. Il ne sait pas si c'est mal ou si c'est bien. Il a faim. Une petite pute de Bangkok gagne en une nuit ce que son père, là-bas dans sa rizière, gagne en une année. La Thaïlande est un pays à vendre, un pays vendu, un paradis en loc, un paradis perverti.
Quatre Français. Vous êtes Français?
Ouais, Français aussi.
Oui, c'est ça.
D'où vous venez?
Pardon?
D'où vous venez?
La Savoie Olympique.
Il y a combien de nanas ici?
Ici, on a à peu près 60 filles.
60?
60, ouais.
Combien ça coûte une place ici?
Alors ça dépend de la fille.
Oui, mais enfin.
Non, mais il n'y a pas de prix, je veux dire. Tu peux avoir une fille au béguin comme tu peux l'avoir en tant que pro. Je veux dire, ça va entre 500 et 2-3. Moi, je connais des nanas qui demandent 3000. Pas chez moi. Hein.
3000 francs ou 3000 bahts?
3000 bahts pour un short time, donc pour une passe. Hein, pour une passe, ce qui est très cher, je reconnais, c'est très cher. Hein. Et 6000 bahts pour la nuit. Bon, mais ça, c'est exceptionnel. Hein. Mais ça dépend parce qu'il y a des filles qui arrivent.
Mais d'où viennent, dis-moi, d'où viennent les nanas d'où...
De partout. En général du nord. Pourquoi? Parce qu'elles sont très jolies dans le nord. Dans le sud, elles sont moins jolies.
Elles sont très pauvres aussi dans le nord, il faut le dire la vérité.
Que ce soit le nord ou le sud, tu sais.
Ouais, bon, elles sont aussi pauvres. Voilà. Il n'y a aucun problème ici, c'est la sécurité totale.
Alors, au niveau touristique, la Thaïlande est 200 000 fois plus sûre que les Philippines.
C'est les gars là qui sont à côté de nous avec des...
Ça, c'est la police thaï.
Ah ouais, ils ont des flingues et des talkie-walkie.
La police thaï, elle est partout. Ils surveillent, ils font attention aux touristes. Et tu sais, ici en Thaïlande, il y a...
Ça, c'est la police des touristes. Ça, c'est la police touristique.
Je sais pas, ils ont un blouson, je vois pas leur badge. Mais de toute façon, t'as les deux polices, la police touristique et puis la police normale.
Toi, tu me dis qu'à Patpong, ici, le sida, il n'y a pas de problème.
Alors, ce qu'il y a, c'est que toutes les filles qui travaillent dans les boîtes ici sont contrôlées médicalement 3 fois par semaine. Tu peux avoir...
Par qui ?
Il y a un seul médecin qui contrôle les deux rues, contrôle toutes les boîtes.
Ici, en tout?
Dans Patpong, il y a 10 000 filles. OK ? Alors, elles sont contrôlées médicalement. Uh-huh. Elles sont obligées, 3 fois par semaine, d'aller chez le médecin.
Obligées par qui ? Par la police ?
Par nous. Bon, maintenant, maintenant, il ne faut pas trop rêver. Tu as des filles qui sont ce qu'on appelle des freelance, qui se travaillent dans les barbiers. Un barbier, c'est les bars en extérieur, comme tu peux voir là. Bon, alors ces nanas-là, bon, là, on ne sait pas. Mais les filles qui travaillent, par exemple, comme chez moi, elles sont contrôlées. Donc, c'est obligé. Parce qu'attends, il faut pas... On sait, bon, c'est connu, la Thaïlande, c'est le rêve, c'est le pays du sexe, c'est le Las Vegas du cul, enfin, passerait l'expression. Mais les Thaïs font quand même... très très fort attention. J'ai eu l'occasion de rencontrer un général-major médecin de l'armée thaïlandaise, donc je veux dire un haut placé médecin. Il m'a expliqué où se trouvent les cas de sida. Alors le sida, il se trouve dans le nord, dans les petits bordels où c'est même, où il n'y a pas de blancs. Les blancs n'y vont pas. Tu vois, c'est chauffeur de taxi, chauffeur tuk-tuk thaï qui vont, bon.
Mais ici, les capotes, les mecs mettent des capotes.
Ah oui, c'est obligé. Les filles, et même s'ils n'en veulent pas, les filles le savent. Bon, mais les filles sont au courant, il n'y a pas de problème. Hein.
Patpong, Pattaya, Phuket, Thaïlande, supermarché du sexe. Des boîtes immenses ouvertes sur les rues. Ping-pong show, banana show, young boys, young girls... Tout ce que vous voulez, petite fille, petit garçon. Emmanuel, vous avez aimé le film, venez le vivre en vrai. Dans les projets rouges, une fille gonfle un ballon avec son sexe. Une autre ramasse des pièces de monnaie avec. Une autre encore en sort des lames de rasoir. Eh oui, ça faisait marrer les GI au bon vieux temps du Vietnam. La Thaïlande était l'arrière, le défouloir érotico-militaire. Avant de retourner au front,
ou d'y crever, c'était le repos du guerrier. C'est ici en Thaïlande, à Phuket, que la Navy américaine s'est arrêtée sur le chemin du retour après la victoire dans le Golfe. C'était ça la récompense accordée par le général Schwarzkopf. Par milliers, ils sont arrivés, il y avait des banderoles « Thank you, Mr. Bush ». En 3 jours, ils ont tout bu, tout cassé, tout baisé. Dans l'armée américaine, on appelle ça « dégazé ». Capitale mondiale de la copulation tarifée, Las Vegas du cul. Venez et choisissez. Elles portent tout un numéro sur leur petit maillot fluo, c'est pas cher. Elles s'appellent Nock, Thai, Hoy, et les types viennent de Munich, de Melbourne ou de Chambéry. Mais pas seulement, il y a aussi beaucoup de Japonais. Ils ont leur quartier réservé. Dans les entreprises nippones, c'est une récompense pour les bons salariés. 3 jours à Bangkok. Il y a aussi les petits garçons, tout petits garçons, très jeunes garçons, en libre service devant le McDonald's. Et autour de Souk M. Vit, c'est le quartier musulman. Les milliardaires d'Arabie Saoudite ou du Koweït viennent là en jet. Après ça, vous pouvez vous acheter une chemise « Made in Thailand ». On a tous sur nous des objets « Made in Thailand ». Ça, c'est autre chose. C'est les sweet shops, les petits ateliers clandestins où les enfants travaillent pour 1 $ par jour. Ils sont 2 millions à travailler comme ça, 14 heures par jour. Un bol de riz, une soupe, ils dorment par terre ou sur les tables dans l'atelier et on leur donne des amphétamines pour garder le rythme. Hommes d'affaires du monde entier, venez investir en Thaïlande, un régime stable, une main-d'œuvre habile et docile. Derrière le sourire, le peuple thaï est baisable et corvéable à merci. La Thaïlande, bon élève du FMI, est très fière de son boom économique. Petit dragon de l'Asie. On vous dit que les problèmes sociaux seront résorbés par l'essor économique. Capitalisme sauvage, capitalisme barbare. En réalité, les bons résultats ne profitent qu'à 10% de la population. La Thaïlande fait partie de ces pays qu'on peut appeler des démocratures. Démocratie dans la vitrine, dictature dans la boutique. Rappelez-vous la phrase de M. Venkateswaran, ambassadeur de l'Inde en Chine. Il disait ceci: « Les politiciens ont intérêt à garder le peuple pauvre et ignorant. Ignorant pour qu'il puisse être manipulé, pauvre afin qu'il puisse être acheté. »
Voilà, c'est une émission du 20 novembre 1991 de La Basse et J'y suis. Cette émission nous avait valu 2 choses. L'une, c'est qu'ensuite j'ai été persona non grata en Thaïlande, d'une part, et d'autre part que cette émission à l'époque avait reçu le prix Ondas. Deuxième partie. If you are on a train going to heaven and it stops in Bangkok, get off. Ça veut dire, si vous êtes dans un train qui va vers le paradis et que ce train s'arrête à Bangkok, descendez. Alors voilà, nous on est descendus à Bangkok. Ce texte, c'est ce qu'on peut lire sur un t-shirt, sur un de ces t-shirts qu'on vend à Patpong ou à Pattaya. Patpong, Pattaya, pour le monde entier, pour l'Occident, ça veut dire le cul. La Thaïlande, c'est le cul. C'est cette image-là. Là, on continue et on va dans un centre, un foyer pour réhabilitation de jeunes femmes qui est dirigé par Kunin Kanikar.
Dans ce centre, c'est un accueil pour les femmes qui se sont abattues par leur mari. Ce sont les femmes qui se sont vendues. Ce sont aussi les femmes qui n'ont pas de travail, qui sont malades et qui sont abandonnées par la famille ou ils sont aussi qui sont la maladie. Et aussi les enfants, dans le même cas.
Combien
y a-t-il? Et aussi violées, bien sûr. Ce sont les femmes aussi qui se sont violées.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ces femmes qui sont vendues?
Toutes ces femmes-là, ou ces enfants-là, c'est des jeunes filles, disons, ils habitent avec les parents à la campagne ou dans les petites villes, les boutiques où ils sont très pauvres. Ensuite, il y a une agence, enfin, des malfaiteurs qui viennent, leur dit, bon, disons, venez travailler avec nous dans une grande ville. Les jeunes filles ne comprenaient pas très bien. Elles aimeraient bien de faire ça. Et donc, les hommes, ils vont négocier
avec les parents en disant, voilà, je vous offre une avance, telle somme et telle somme. Et ensuite, une fois quand la fille est partie, donc c'est comme si c'est vendu, si tu veux. Bon, les parents ne pouvaient pas comprendre que finalement, est-ce que c'est vrai, elles vont travailler, est-ce que c'est vrai, bon, ils ne peuvent pas savoir. Ils revendent après, ailleurs, avec le prix très 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 cher.
Combien on vend une femme ici?
10 000 bahts. Donc ça représente 2 500 francs.
Combien de femmes sont vendues de cette façon chaque année ici à l'intérieur du pays?
On ne peut pas dire.
D'après vous, mais quelle idée on peut... Une idée, 100, 5 000 et...
Plusieurs milliers.
Plusieurs milliers chaque année de femmes qui sont vendues comme ça?
En fait, c'est-à-dire qu'à chaque village, chaque petite ville, il y a enfin des endroits...
Il y a un bordel. Il y a un bordel.
Ou un hôtel de passe. Il y en a tellement...
C'est-à-dire qu'il y a des bordels aussi bien dans des petits villages ou dans des petites villes où il n'y a pas de touristes.
Ah oui, absolument, même pour les Thaïs.
Ce n'est pas les prostituées, ce n'est pas pour les touristes, c'est pour tous les hommes.
En toute Thaïlande, il y a 73 provinces. Chaque province, on a environ 12 à 13 districts. Et chaque district, il y a environ 20 à 40 maison de bordel, disons. Et à chaque maison, il y a au moins 20 à 30 de filles.
Voilà, alors j'ai fait un calcul rapide, ça fait environ 800 000. Ça, c'est le chiffre évident, c'est le chiffre officiel. Mais le chiffre le plus souvent avancé, c'est 2 millions. Mais tout ça, c'est des chiffres, on va laisser les chiffres de côté. D'ailleurs, les chiffres sont très difficiles à obtenir en Thaïlande et très difficiles à établir. Puis après tout ça c'est abstrait. Mais comment ça se passe? Comment on vit tout ça? Comment une prostituée, une jeune femme vit tout ça? Alors voilà quelqu'un avec qui on a rendez-vous. Elle s'appelle Thie Boa. On dirait vraiment une enfant, mais une petite enfant. Bon, les Thaïs font très très jeune. Alors on va apprendre qu'elle a 15 ans ou 16 ans. Elle ne sait pas très bien. Elle est très très jolie et elle appartient à l'ethnie Aka, une ethnie qui se situe aux alentours du Triangle d'Or, Thie Boa. Dis-moi comment tu t'appelles.
Thie Boa.
Et tu as quel âge?
Mei lu. Mimi Poma.
Je ne sais pas à quel âge exact elle a parce qu'elle n'a pas les parents.
Tu viens de quel pays, de quelle ville?
Ma Chapondoy.
Elle arrive dans un endroit qui est dans le nord de la Thaïlande. Cette ville s'appelle Chiang Rai, enfin vers le Triangle d'Or.
Tu as connu ton père et ta mère?
Elle était morte quand elle était toute petite.
Dans quelles conditions, tu peux nous le dire?
Elle ne savait pas comment son père était mort, mais sa mère était malade, une maladie, un peu la fièvre.
Est-ce que tu as des frères et des sœurs?
Oui, oui.
Voilà, frère.
Comment tu as grandi alors? Quand tu étais petite, c'était comment ta vie?
Donc elle a été grandie dans un village, un petit village. Elle va à gauche, à droite, chez des gens, où elle vit dans la rue, et voilà.
Est-ce que tu es allée à l'école?
Non, elle n'a jamais été à l'école.
Et quand tu étais dans ton village là-bas, est-ce que tu travaillais?
Si elle travaille dans les champs et puis garder les enfants les uns les autres dans le village.
C'était une bonne vie?
Elle était heureuse et puis même à la fois elle est très malheureuse aussi.
Quand elle travaillait dans les champs, elle gagnait combien d'argent pour une journée?
Non, elle n'a rien gagné. Elle dort avec eux, elle vit avec eux. Donc, elle travaillait pour gagner le repas du jour.
Est-ce que les gens étaient gentils avec toi? Elle se demande.
Son. Got me bang.
Oui, il y a un peu.
Un peu gentil?
Oui. Un peu gentil.
Est-ce que tu allais au temple? Est-ce que tu allais prier, faire des méditations?
Non,
elle croit en christianisme.
Tu es chrétienne?
Oui.
Sout krong Bangkok. Noi phai rue tam ha bua loi. Chun ngue pi yoi. Som kai. Paak pi ta kon ku. Thung yod chu. เพื่อนร่วมตายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปแห่งใดเล่านะ
Quand tu étais plus grande, un jour tu as quitté ton village. Comment?
ก็ไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กในที่นี้พี่ชายมารับ
Une fois elle était dans le village et un jour son frère lui a dit que il faut qu'elle travaille donc elle pour gagner l'argent.Et elle descend dans un centre où une ville dans tout le nord, à côté du triangle d'or, donc, pour travailler dans un centre où il y a les maternités, quoi, un petit centre. Et ensuite, son frère lui a dit, bon, bah, si tu veux travailler, voilà, comme on n'a rien, on a rien à manger et tout, il faut qu'on vive.
Et alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
ก็ไปทำที่นั่นเขาบอกว่าให้เลี้ยงเด็กทำที่แม่สายค่ะเขาบอกให้เลี้ยงเด็กและที่นี่เขาเบิกตามไป 2,000 เขาบอกเดือนใน 1,000 หนูจะอยู่ 2 เดือน
Une fois elle était arrivée dans une maison et son frère lui a dit tu peux travailler ici dans ce centre pour 2 mois son frère a demandé une avance2000 bahts. Et le lendemain, elle s'est réveillée. Elle était à Pattani, en tout le sud de la Thaïlande. C'est la frontière à la Malaisie. Imagine-toi, il y a distance plus de 2000 kilomètres.
Comment elle a fait ces 2000 kilomètres?
Mais ça, car nous sommes des toilettes. Des toilettes. Aïeux, pas mal. T'en as rien d'être. Du coco. Mais mi kai son sai.
Elle ne comprenait pas très bien, donc elle était encore jeune. Bon. Et donc, il lui demandait de dormir sous les serges du train.
Mais qui l'a transportée dans ce train? Avec qui elle était dans ce train?
Un
homme et une femme, ce sont le mari et la femme.
Mais tu les connaissais avant?
Je ne connaissais pas. Je suis allée là-bas.
Elle ne connaissait pas, bon, parce qu'elle était confiée par son frère, donc elle, pour aller justement garder un enfant, leurs enfants, disons.
Pu Yin ko bok wa.
Elle n'a pas du tout soupçonné, donc elle était très confiante et adolescente.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Pattani?
Ko ton pai yan dek ma, ayu yan noy, ko ko yan mihai tham ngan, ko jalo hai tham ngan khai toa na ka.
Elle était encore toute petite, donc ils attendaient qu'elle aura un petit peu grandi pour commencer à faire prostituer.
Lèo, mou, kong, yang, jam, yang, jau, tam, ha, nang, kèo, duang, ta, sop, nong, jau, loi, long, yu, tai, thong, sutara, lu, wa, loi, ok, nok, jau, praya.
Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé la première fois que tu as fait la prostitution?
ไม่ใช่ค่ะที่พาไปเนี่ยเขาเอาไปขายเฉยเพราะขายให้เขาต่อแล้วเขาก็จะกลับค่ะ
Eh bien, c'est la personne qui garde la maison, enfin le bordel. S'il fait pas, il se bat. Il a battu.
L'homme qui gardait le bordel, il t'a dit si tu le fais pas, je te bats. Oui. Et qu'est-ce que tu as dit?
Là, donc elle a peur. Elle a peur, donc elle le fait.
ก็ขาเขาไม่ได้ค่ะก็ต้องทำตามเขา
Ils l'ont battu plusieurs fois chaque fois quand elle a pas voulu
มาครั้งก็แบบอดทนไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องขัดเขาบ้างเขาก็
Parfois, c'est vrai, elle n'a pas tellement envie avec des clients qui arrivent, qui sont laides, qui ils veulent ceci, cela, donc elle ne peut pas offrir et puis elle n'a pas envie ou elle a... Donc elle refuse de le faire. Et une fois qu'elle refuse, donc le client descend pour parler le garde et c'est le garde vient le battu.
Est-ce que tu as essayé de t'en aller?
Oui,
elle avait des idées en tête, mais elle ne pouvait pas échapper tellement parce qu'il y avait les gardes tout le temps 24 heures sur 24. Elle avait déjà ses copines qui ont déjà essayé et une fois qu'ils l'ont vue, ils l'ont ramenée, ces filles-là. Ils se sont torturés, ils ont fait vraiment une tortue totale et abominable. Et donc elle a peur.
Il y avait combien de filles comme toi dans l'endroit où tu étais à Patani? Une centaine de filles. Combien tu avais de clients dans la journée?
Beaucoup, une dizaine d'hommes.
Est-ce que des fois tu étais heureuse?
Non, jamais.
Elle
n'a jamais sorti. C'était comme une prison et enfermée dans la chambre. Elle n'a pas pu sortir jamais.
Est-ce qu'on donnait de l'argent?
Jamais il lui a donné l'argent.
Et puis un jour, tu es partie de cet endroit-là?
Donc, il a eu une relation avec un Malais. Elle lui suppliait de l'aider pour sortir de cet endroit-là.
Et puis alors?
Ensuite, cette personne, enfin cet homme de Malais, a amené une photo d'elle, elle lui a donné une photo, et cette personne vient de faire une déclaration à la police ici à Bangkok. Et donc, il y a la police qui descend à Patani avec sa photo. Et donc, quand ils ont vu qu'elle existait dans cet endroit-là, la police l'a ramené à 4 filles avec lui.
Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 12 ans.
Et 11 ans.
Oui, environ 11 ou 12 ans. Ça fait un an, elle est là. Et pendant 5 ans, elle était dans cet endroit là-bas, à Patani. Elle doit commencer à 12 ans, 11 à 12 ans.
Est-ce que tu sais si les hommes qui te tenaient prisonnière dans ce bordel ont été arrêtés?
Pareil que la patronne ou le patron, la boîte là où elle était, ils sont très très malins. Dans les chambres où elle s'est fait violer, bon, chaque jour, ils se sont transformés, cette petite fille, en jolie robe, habillée, maquillée avec de l'or dans sa chambre. Il y a une chaîne stéréo, il y a le tape de vidéo, tout ce qu'elle voulait. Et alors, pour faire semblant qu'elle est bien-être, quoi. Et personne d'autre n'ose dire que c'est la réalité. Parce qu'ils ont peur des macros, des patrons, d'autres policiers, tout ça.
Il n'a pas été arrêté. C'est-à-dire, alors, ok, ça veut dire que cette boîte, aujourd'hui, où cette petite a été enfermée,
où elle était mineure, elle a été violée tous les jours, ça veut dire que cette boîte existe toujours dans ce pays.
Elle pense que oui.
Ça continue. Comment tu faisais avec les clients pour ne pas avoir de bébé?
Donc elle fait une piqûre pour ne pas être enceinte.
Une piqûre pour ne pas avoir d'enfant?
Oui.
Est-ce que tu avais peur du sida?
Elle a très peur, très très peur.
Est-ce que les hommes portaient des condoms, des capotes?
La plupart, ils n'ont pas utilisé de contraceptifs. Enfin, les capotes.
Est-ce que tu penses aujourd'hui à toutes les jeunes filles comme toi, les jeunes filles et les femmes qui sont en ce moment ou tout à l'heure, cette nuit, qui vont continuer à faire ce... à subir ces... cette condition. Est-ce que tu penses à elle?
Elle pense beaucoup à eux et elle aimerait bien qu'elle sorte de là et de lutter, de continuer la vie dans le monde à l'extérieur que dans cette maison.
Tu apprends un métier, qu'est-ce que tu apprends comme métier alors ici? Elle sourit, elle est magnifique.
Elle apprend à être une coiffeuse.
Est-ce que tu vas avoir des bébés un jour?
Elle a dit qu'elle aimerait bien avoir une famille et avoir une maison.
Des bébés?
Elle a dit oui, elle aimerait beaucoup.
Avec un mari?
Elle ne sait pas.
Est-ce que tu es heureuse maintenant?
Elle a dit que c'est vrai, ici elle est bien. Et puis, une fois qu'elle aura terminé ses cours de coiffeuse, elle va essayer de trouver du travail. Et voilà.
Bonne chance.
Bonne chance, on a des mots quand même un peu niais parfois. Thibouane a souri que quand il a été question de bébé, et quand Lynn, qui était là pour les traductions, lui a montré la photo de son fils dans son portefeuille. Merci à Lynn donc, merci à Thibouane, merci à Minerve, merci à notre Sylvie Coma que le monde entier nous envie. C'est Thierry Scharf et Zoé Varier qui ont fait tout le boulot, et c'est Philippe Labrousse qui a réalisé cette modeste émission géniale. Archives de la Basse, si j'y suis, du 20 novembre 1991. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Là-bas.org. Merci à Lynn et merci bien sûr à Thibaut. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, c'est Koye Nguyen et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette version de cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Catherine Pinto, attend comme chaque jour, sagement, vos messages sur le répondeur de La Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.